Paris Podcast Festival à la Gaîté Lyrique.
Bienvenue à cette table ronde qui s'intitule « La libérer la parole et l'écoute sur la santé mentale ». C'est moi qui vais animer cette table ronde. Je m'appelle Alix Philippot. Je co-réalise un podcast qui s'appelle « Les garde-fous ». Je le co-réalise avec Baptiste Dupin et Samuel Haussan. C'est un podcast dans lequel, à travers des récits de vie, des portraits, on explore et on questionne le concept de la folie. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir quatre invités, quatre femmes qui, chacune à leur façon, justement participent à libérer la parole et l'écoute sur la santé mentale. Donc, à ma gauche, j'ai Camille Test qui vient de sortir le podcast Encore Heureux, produit par Binge Audio. C'est donc un talk show dans lequel, avec un psychiatre et un ou une invitée, vous explorez à travers un angle politique, une question sur la santé mentale. On y revient dans un instant. Il y a aussi à ma gauche Sophie-Marie Laroui.
Bonjour, bonjour.
Qu'on connaît beaucoup pour ses podcasts tels que À bientôt de se revoir ou encore On est chez nous, produit par Binge Audio. Et donc cette année, tu reviens avec un podcast autoproduit.
Autoproduit par moi, quoi.
Par toi-même, ouais, en indépendante, qui s'appelle À la recherche du ton à la catalane.
Oui, madame.
On en reparle aussi dans quelques instants, parce que c'est dur de résumer en une phrase. Ensuite, il y a ici Emmanuel Laurent, aussi connu sous le pseudonyme Mardi Noir. Bonjour. Qui donc anime et écrit le podcast Ça tourne pas rond, produit par Slate, qui chaque semaine répond à des questions posées par les internautes, des questions en lien avec la psychologie. Vous êtes d'ailleurs psychologue et psychanalyste. Et enfin, Claire Selma Aitou. Donc vous êtes l'autrice du podcast Quelques raisons de ne pas disparaître. Par ailleurs, vous écrivez aussi de la poésie, entre autres. Est-ce que tu peux me rappeler juste le nom de ton recueil de poésie ?
Il est assez long, donc je comprends. Il faut tomber d'une comète pour connaître la solitude. C'est assez émo.
Non, mais c'est très beau aussi.
Je préfère prévenir.
Bon, moi, je trouve que tu es très forte, en tout cas pour les beaux titres, parce que Quelques raisons de ne pas disparaître, c'est donc un podcast qui parle de dépression et de santé mentale. Claire Selma, dans ce podcast, tu pars de ton récit personnel pour ensuite aller vers d'autres récits de personnes qui, elles aussi, ont été confrontées à des souffrances psychiques. Mais aussi, tu donnes à entendre des paroles d'experts, des réflexions politiques, philosophiques. Je vous propose d'écouter un extrait de Quelques raisons de ne pas disparaître, du premier épisode qui s'appelle « Les choses qu'on ne dit pas ». En gros, c'est ça. Ça ne marche pas.
On s'arrête là ?
Là, dans le fond, c'est moi qui cours. Mais en réalité, ça fait plus de 6 mois que je n'avais pas couru. En fait, il y a un mois, mon défi, c'était juste de sortir du lit. J'aimerais vous dire que la course m'a aidée, que j'ai mené de front une lutte contre la dépression à base d'une discipline de fer et d'un régime drastique. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce podcast ne va pas être l'histoire d'une bataille. D'ailleurs, je ne sais pas si la bataille contre la dépression existe vraiment. On ne lutte pas de toutes ses forces contre un ennemi envahissant. Le fracas des armes, la lutte violente mais salutaire ne correspond pas vraiment à ce que beaucoup de personnes vivent en dépression. Je crois qu'on tombe et qu'on essaie de se relever. Pendant plusieurs mois, je suis allée à la rencontre de celles et ceux qui ont vécu une dépression. Vous entendrez leur voix, la mienne, et celle de professionnels de santé et du milieu de la recherche. Ce podcast est d'abord leur histoire. Vous écoutez Quelques raisons de ne pas disparaître, un podcast où on parle de dépression et de santé mentale.
Claire Selma, ce podcast, pourquoi, qu'est-ce qui vous a poussé à l'écrire et pourquoi est-ce que vous avez voulu le faire sous cette forme documentaire et polyphonique ?
Ce podcast, il comme on l'entend, il vient évidemment d'une expérience qui est celle formidable de la dépression. Et en fait, à partir de cette expérience, évidemment, ce podcast, je l'ai fait après. Je ne l'ai pas du tout fait en période de dépression. Je pense que c'est très important de le rappeler tout d'abord. Et donc, il part de là. Et il part aussi d'un constat qui est que moi, je n'ai pas eu accès à des ressources qui décrivaient la dépression telle que je la connaissais. Donc, j'ai mis très longtemps à comprendre en fait, ce qui m'arrivait, à comprendre qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide, parce que ça ne correspondait pas en fait, aux stéréotypes que j'avais sur la dépression. Donc, c'est vraiment ce manque de ressources-là qui a été un peu premier. C'est aussi, je me suis dit, ok, moi, qu'est-ce que j'aurais voulu entendre pendant cette période ou avant cette période-là? Et du coup, j'ai fait vraiment ce podcast pour les personnes en situation de dépression ou pour leurs proches. Et c'est pour ça que j'ai choisi la forme du podcast. C'est parce que moi, quand j'étais en dépression, la seule chose que je pouvais faire, c'était écouter des podcasts. Je ne pouvais pas regarder de séries. Les séries, ça me stimulait beaucoup trop. Je terminais rien, donc j'étais là. T'es même pas capable de terminer une série. Enfin, vraiment, c'était la cata. Je pouvais pas lire. Et il y avait un peu que les podcasts. Et après, en effet, comme tu le dis, il est polyphonique dans le sens où je pense pas que mon seul témoignage aurait été extrêmement intéressant parce qu'il est très situé, il est très particulier. Et donc, j'avais envie de le mettre en perspective avec d'autres personnes, voir ce que elles avaient vécu. Comprendre davantage leur récit, pourquoi on ne ressentait pas les mêmes choses, en fait, et c'est normal. Et avoir un petit peu un temps de réflexion aussi, et de réflexivité. Donc par exemple, les professionnels de santé, ils parlent de leur pratique. Ils expliquent comment eux, ils procèdent, et ils ne vont pas nous expliquer ce qu'est la dépression. La dépression, c'est les personnes qui l'ont vécu qui l'expliquent d'abord. Et donc, c'est un peu pour toutes ces raisons-là que ça a pris, in fine, cette forme-là.
Merci. Sophie-Marie Laroui, je vais repasser donc, ton podcast à la recherche du ton à la catalane. Quand même, ce titre aussi, on peut, je ne sais pas, le féliciter.
Merci.
J'hésite à le décrire, mais en gros, c'est un podcast, comme vous le décrivez, de méditation dans un hypermarché. Le premier podcast de méditation dans un hypermarché. Est-ce qu'on écoute un extrait en premier, ça te va ?
Avec plaisir.
Ouais. Franchement, je vous recommande de fermer les yeux. C'est mieux pour l'écouter. T'es d'accord avec ça ou pas ?
Faites vraiment comme vous le sentez. Vous avez survécu sans nous jusqu'ici.
Prends une grande inspiration en disant « Est-ce que j'ai ?» et expire en prononçant « Pris ma liste de courses que j'ai fait exprès avant de venir. » Jette un regard par la vitre, ça y est. Tu es prêt ? Bienvenue dans le premier podcast de méditation à l'intérieur d'un hypermarché. En quoi consiste la pleine conscience ? Eh bien, sans le savoir, c'est tout simplement ce que tu es en train de faire. Par contre, moi, je suis pas sûre de tenir 250 ans avec cette voix de perso de Laura Felpin. En plus, vous avez survécu jusqu'ici sans moi, donc je vais juste vous accompagner pour que ces prochaines minutes, vous soyez plongés dans le monde intérieur des grosses courses, c'est tout. Celui de quand vous tapez un sprint parce que la pesée c'était aux fruits et légumes et pas en caisse. Celui où quand on était petit, on chantait faux et au casque, les CD qu'on écoutait à l'entrée. Celui des listes sur post-it jaune qui étaient sans sommation comme un plan cul dans un mauvais bar vers République après avoir été le centre de la vie des achetantes et des achetants. Le monde du lot de deux, le troisième à moins 50. Tout commence ici et maintenant, sur le parking. Demain n'existe plus. Hier n'existe... Attends, non, c'est le contraire. Oui, c'est le contraire.
Sophie-Marie Laroui, comment est-ce que naît le désir de faire un podcast de méditation dans un hypermarché ?
Eh bien, c'est très simple. Contrairement à ce que ça peut ressembler, j'ai eu l'obligation de méditer à un moment donné dans ma vie parce que sinon, j'allais rejoindre le dernier continent. Donc j'ai vraiment saigné toutes les applis de méditation, les payantes, les gratuites, les petits bambous, les calmes, etc., Meditopia, toute la compagnie, et c'est super, mais par contre vraiment c'est chiant, enfin c'est chiant quoi, c'est chiant, et c'est pas marrant, et je sais pas comment vous ressentez vous dans vos vies, mais on a du mal, moi j'ai du mal en tout cas de prendre soin de moi au premier degré. sans faire une blague ou sans machin. Donc j'avais envie de que tout un chacun, nous, puisse accéder à une pratique qui est vitale, parce que quand on commence à comprendre que respirer, prendre 5 minutes, ne pas projeter les pires scénarios de l'univers juste parce que on vit à Paris et que c'est comme ça qu'on fait pour survivre, ça peut aussi très bien se passer, et que le moment présent, c'est une notion qui s'apprend. Mais par contre, le temps d'y accéder, c'est vraiment, pour moi, la méditation, c'est quelque chose qui est pour les privilégiés, parce qu'il faut prendre le temps de prendre soin de soi. C'est souvent payant. Il faut savoir ce que ça veut dire que de prendre soin de soi concrètement, quoi. Au-delà de se faire une pédicure semi-permanente en été. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça. Donc, c'est rentrer, mettre un pied chez les gens avec cette méditation marrante, sous le prétexte que c'est moi qui le fais. Donc, c'est aussi dans le monde intérieur des grosses courses, parce qu'on connaît tous et on est obligé de faire les courses.
Merci. Emmanuel Laurent, je passe à vous maintenant. Donc, comme je le disais, vous êtes l'autrice, l'animatrice du podcast Ça tourne pas rond. Donc, c'est produit par Slate. Chaque semaine, vous répondez à des questions comme je fais des rêves dégueulasses, est-ce que c'est grave, est-ce que mon psy consulte un psy, ou est-ce que tous les problèmes psy viennent de la sexualité. C'est d'ailleurs un extrait de cet épisode qu'on va écouter tout de suite.
Alors c'est vrai, hein, mardi noir, que dans les représentations collectives, Freud égale complexe d'Oedipe égale sexe. C'est vrai aussi qu'on n'a pas forcément envie de payer plusieurs dizaines d'euros par semaine pour s'entendre dire qu'au fond, tous nos problèmes viendraient peut-être du fait qu'on a envie inconsciemment de faire l'amour à maman ou à papa, qu'on est un pervers qui s'ignore, ou que si on n'arrête pas de fumer, c'est parce qu'on est en recherche peut-être d'un phallus symbolique ou que sais-je encore.
Je vais être honnête, Christophe, vous n'êtes pas à l'abri de tomber sur une psychanalyste un peu timbrée qui vous sortirait pleine d'emphase. Votre crainte des portes du métro qui se referment violemment, au fond du fond, ne serait-ce pas la peur de votre propre anus, de l'abéance intrinsèque de votre être? Vous supputez sans doute que quiconque pourrait y entrer sans ticket, et donc sans permission. Je vous l'accorde, c'est un peu caricatural, mais c'est pas si con.
Donc, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, vous êtes psychologue, psychanalyste. Qu'est-ce qui vous a donné envie de porter votre parole, qui à la base est celle d'une professionnelle, dans l'espace public du podcast?
Il faudrait quand même faire un peu la genèse de tout ça, parce qu'au départ, ce n'est pas en tant que professionnelle que j'ai eu envie de porter cette parole. J'ai commencé sur YouTube en faisant des vidéos dans lesquelles je parlais de psychanalyse. Mais avant tout, en tout cas de mon point de vue, je me maquillais. Et donc en fait, la psychanalyse a été mise au service de mon envie de me maquiller. Et ça, c'est quand même important de le dire. Je n'ai pas lancé cette chaîne pour raconter au monde la bonne parole de la psychanalyse. Et il se trouve qu'à la fin, j'ai fait plusieurs années de vidéos, j'en ai eu un peu marre. Et à ce moment-là, Slate m'a contactée. Et donc, c'est une sorte d'alliance de savoir et de pédagogie qui s'est mise en place, où là, en tant que professionnelle, j'ai accepté de parler de tout ça. Mais au fond, comme disait Sophie Marie, les gens survivent très bien sans moi.
Ok, merci. Et enfin, Camille Test, donc, comme je disais tout à l'heure, vous faites avec Binge, produit par Binge, un podcast que vous animez, que vous écrivez, qui s'appelle Encore Heureux. Donc, ça fait suite à Après la pluie.
Exactement. C'est l'enfant d'Après la pluie.
Le premier épisode vient de sortir, là, il y a quelques jours, il y a 2 jours, je crois. Ça parle de... Le titre, c'est « Peut-on avoir un rapport...
Apaisé à la nourriture.
À la nourriture, voilà. Et donc, c'est, comme je disais, un talk show. C'est enregistré en public. Il y a un psychiatre, un ou une invitée qui change à chaque épisode. Donc, on écoute un extrait tout de suite.
On est dans un système grossophobe. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est la grossophobie en 2 mots?
Bien sûr. Alors, effectivement, le rapport à l'alimentation, et ce que tu disais, Daniel, qui est l'image corporelle, c'est dans un contexte donné. On vit dans une société où il y a une forte injonction à la minceur. Et si vous étiez tout seul ou toute seule sur Mars, peut-être que vous compteriez pas forcément vos macros et vos calories. Donc, quand on dit qu'on est dans un système grossophobe, quand on parle de grossophobie, c'est un mot assez récent qui est entré dans le dictionnaire francophone en 2019, qui aujourd'hui désigne simplement l'ensemble des discriminations qui sont exercées à l'encontre des personnes grosses. Moi, j'aime bien l'élargir, je le dis régulièrement sur mon Insta, à la définition étymologique, c'est-à-dire la phobie de la grosseur, c'est-à-dire la peur de grossir qui nous habite toutes et tous.
La peur de grossir et la peur aussi peut-être de voir ses proches grossir, de s'inquiéter quand on voit un proche grossir ou une proche grossir comme si c'était forcément un problème.
Absolument. Bah, en fait, on va pas se mentir, on vit dans une société où être une personne grosse, c'est la merde en fait.
Camille Test, qu'est-ce qui vous a donné envie de créer un espace de discussion et d'écoute autour de la santé mentale ?
Alors en fait, moi, il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti un livre qui s'appelle « Politiser le bien-être » où j'essaye de reprendre les pratiques de bien-être, le monde de la santé mentale, toutes les solutions qu'on nous offre pour nous accompagner et réaliser que souvent, c'est fait de façon extrêmement dépolitisée. C'est-à-dire que, par exemple, on va vous dire « bah oui, on va vous aider à aller mieux pour telle et telle raison ». Mais sans jamais se questionner sur pourquoi on va mal. Et l'une des raisons pour lesquelles on va mal, c'est qu'on est dans un système qui n'est pas du tout structuré pour favoriser notre épanouissement. On est dans un système capitaliste néolibéral qui nous fait bosser comme des dingues. On est dans un système grossophobe, on vient d'en écouter un extrait, sexiste, raciste, etc. Et donc, on est dans une situation où je pense que pour aller mieux, c'est important de rappeler ça, d'une part. Pour moi, ça fait partie de la solution. Par exemple, sur ce thème, peut-on avoir un rapport apaisé à la nourriture ? Tant qu'on réalise pas qu'en général, on a un rapport complètement toxique à la nourriture parce qu'on a peur de grossir, parce qu'on est dans un système grossophobe, en fait, on ne règle pas le problème. Après, une fois qu'on a dit ça, je pense aussi qu'on est arrivé à un stade où on a beaucoup, beaucoup posé les mots sur les problèmes politiques. Ça fait quand même, enfin voilà, en tout cas, et notamment dans le monde du podcast, on sait qu'il y a plein de problèmes, on sait qu'il y a plein de problèmes politiques, et donc c'est aussi intéressant d'aller chercher du côté des solutions, et nous c'est ce qu'on essaye de faire, c'est pour ça que c'est un talk show de solutions, j'aime bien le définir comme ça. On repart de problèmes très concrets, j'ai un rapport conflictuel, problématique à la nourriture, aidez-moi. Et donc pour moi ça passe par repolitiser ces questions et trouver des solutions très concrètes. Là par exemple dans l'épisode, on n'a pas le temps forcément de réécouter un extrême, mais on parle d'alimentation intuitive, on essaye voilà, de reposer les questions différemment.
Oui, effectivement, toute la partie action et outils, on reviendra dessus un peu plus tard, mais elle est très présente dans Encore Heureux. Et tu as aussi parlé des mots quand même dans cet extrait. On entend ton invité
Zina Mepkout.
Mepkout, qui redéfinit la grossophobie, un mot qu'on utilise souvent, mais qu'on définit souvent mal aussi. Au début, le psychiatre Daniel Batoula redéfinit aussi des termes tels que anorexie, boulimie, qui sont des termes, pareil, très utilisés, mais souvent à tort et à travers. Et donc, tout ça pour dire que tous vos podcasts, à leur manière, ils rappellent que les mots, ils sont quand même au cœur du sujet de la santé mentale. Les mots qu'on choisit, les mots qu'on utilise, les mots, en fait, pour déjà identifier les souffrances psychiques, aussi pour pouvoir s'y confronter, peut-être pour les déstigmatiser. Claire Selma, vous avez accordé un épisode à cette question-là, le deuxième épisode, je vais mettre un extrait, ce sera plus simple.
Depression. Si je me mets un psychologue, je suis un malade des nerfs, la dépression, je chute la dépression.
Comment dire dépression au Kabyle ? Il est 2h du matin quand je google cette phrase. Je ne sais pas trop pourquoi je fais ça. Je tombe sur des vidéos de psychologues à Tizi ou Béjaïa qui expliquent que la dépression c'est sérieux et qu'il faut écouter ses proches. Depuis hier, j'ai une question qui tourne en rond dans mon esprit. Est-ce qu'on a un mot ? Et si on n'a pas de mot ? Est-ce que cela veut dire que la dépression n'existe pas ? Quelques jours auparavant, je suis entrée dans le cabinet de la psychologue qui me suivait depuis quelques mois. Elle m'a souri, comme à son habitude, m'a laissé parler un instant, puis m'a demandé « Avez-vous déjà entendu parler de Et c'est comme ça, tout en douceur, qu'elle a, selon l'expression consacrée, fait l'annonce du diagnostic. Ni ange, ni trompette, juste elle et moi, dans un bureau impersonnel. Plus tard, elle aura ces mots réconfortants. Vous savez, vous n'êtes pas votre diagnostic. Je me suis retrouvée alors dans une boucle paradoxale où je n'étais pas ce qu'on me disait que j'étais, parce qu'on me le disait. J'ai respiré un grand coup, j'ai regardé de nouveau ce mot et j'ai réalisé que je ne savais pas du tout quoi en faire.
Je laisse la musique à chaque fois parce que je la trouve trop belle. Claire Selma, déjà vous avez un rapport à l'écriture qu'on entend quand même beaucoup dans votre podcast. Vous poétisez beaucoup les choses, mais aussi en parallèle de ça, vous nommez des mots importants de la santé mentale. Comment est-ce que vous avez procédé pour cette écriture, pour le choix des mots ?
Ça a été assez compliqué. Moi, j'ai un rapport très ambivalent avec la notion de diagnostic, ce que j'explique dans le podcast, où ce mot m'a fait très peur. Je l'ai beaucoup refusé. J'ai refusé de nommer ce qui m'arrivait selon cette terminologie-là. Je ne savais pas non plus comment en parler à mes proches. Et c'est pour ça qu'on commence sur la notion de la langue, parce que je pense que c'est quelque chose qui touche tout le monde, pas que les personnes issues de l'immigration, mais aussi ce terme de... Ok, comment est-ce que j'en parle en fait ? C'est quoi ? Pourquoi est-ce que j'utiliserais ce mot ? Quel mot autre utiliser, etc. Donc c'est parti de là. Et progressivement, à force de rencontres, j'ai compris plusieurs choses. J'ai compris que c'était normal en fait d'avoir peur d'une catégorie diagnostique, parce que là on parle de dépression, mais quand on vous dit bonjour, vous avez un trouble schizo-affectif, personne n'est content d'entendre ce mot-là, et c'est des mots qui sont durs. Et donc c'est normal en fait d'avoir peur de ces mots-là. Et c'est normal aussi d'en faire sa part, c'est-à-dire de décider quand les utiliser et quand ne pas les utiliser. Et ça a été très important pour moi de comprendre que j'avais pas besoin de dire mon diagnostic à mon employeur. Ça s'appelle le secret médical. Donc en fait ces mots-là, ils peuvent être utilisés dans certains objectifs, par exemple un arrêt maladie, par exemple un aménagement. Du poste du travail ou de la scolarité. Mais en fait, ces mots, ils nous appartiennent et on peut les redéfinir ensemble. Et ça a été un deuxième point vraiment important, de dire en fait, on peut les réutiliser, on peut en faire un petit peu ce qu'on veut, ils sont plastiques, les mots, et en fait, ils sont pas figés. Et c'est pour ça que je commence sur le paradoxe de la définition, où d'un côté, on me dit tu es ça, mais de l'autre, on me dit oulala, tu n'es pas ça. Et où je me disais, mais ok, je suis quoi alors ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là-dessus, il y a eu beaucoup de littérature qui a été faite par des personnes militantes de la santé mentale. Donc c'est hyper important ce que tu disais, Camitès, sur politiser en fait, les enjeux de santé mentale. En fait, il y a des gens qui sont des activistes de la santé mentale, des gens qui ont eu des parcours psychiatriques extrêmement douloureux. Et moi, j'ai beaucoup appris de cette littérature-là et de rencontrer aussi des personnes qui sont militantes et qui m'ont dit « Mais en fait, ton diagnostic, tu en fais ce que tu veux, en fait. Et tu peux te redéfinir. » Et tu peux définir ce que tu vis par les symptômes, par exemple, et pas par les catégories. Tu entends des voix, et ben tu es entendeur de voix, en fait. Parce que c'est ça, c'est ce qui t'arrive, c'est ça. Et tu peux redéfinir toi-même ton réel. Et cette reprise du pouvoir des mots, pour moi, elle a été assez essentielle dans recomposer le réel autour de moi et comprendre enfin ce qui m'arrivait en le renommant. Et c'était un peu un mouvement circulaire, mais progressivement, on avance. Et surtout, j'ai compris qu'en fait, beaucoup de personnes étaient dans cette ambivalence par rapport au diagnostic. Et que c'était pas. Certaines personnes sont soulagées et d'autres non. Et en fait, les deux positions sont totalement compréhensibles et totalement normales. Et peut-être le dernier point sur les mots, c'est. Il y a un épisode qui est consacré à la prévention du suicide. Et où là, les mots ont leur importance. Et. Savoir écouter et savoir poser des limites à l'écoute est essentiel. Et ça, c'est un autre point dont on parle assez peu. C'est de dire, en fait, les mots ont un sens, mais on n'est pas formé à poser un cadre pour les accueillir. Et donc, Il y a encore du travail à faire là-dessus, mais je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler avec vos autres podcasts.
Vous, Emmanuel, Laurent, dans un tout autre registre, les mots, vous ne les mâchez pas, déjà, comme on a pu l'entendre, et puis vous aussi, vous dites un peu les mots qu'on peut avoir honte de dire, vous soulevez un peu les tabous. Quel rôle est-ce que vous donnez au choix des mots dans ce podcast à Tourne par rond ?
Déjà, je voudrais quand même rebondir sur ce qui vient d'être dit, parce que je trouve ça très juste, c'est-à-dire l'idée de ne pas garder des mots, au final, comme ça, extérieurs, qui viendraient définir quelque chose comme un savoir qui écrase, mais de vraiment se réapproprier des termes. Et en fait, c'est tout l'enjeu et du podcast et de mon métier, la psychanalyse, enfin, être psychanalyste, psychologue, c'est-à-dire de pouvoir permettre à des personnes de créer un récit personnel de leur vie à partir de leurs symptômes, à partir de leur histoire, à partir de la façon dont ils ont d'utiliser leurs symptômes dans leur vie. Est-ce que ça les écrase ou est-ce qu'au contraire, ça leur permet pour le moment de ne pas s'effondrer ? Donc tout ça, c'est très important de pouvoir le repérer. Et enfin, les mots, c'est quelque chose, encore une fois, c'est difficile parce que voilà, là je parle et j'ai l'impression que les mots m'échappent et je ne sais même plus déjà où ils sont. Donc c'est à la fois tout ce qu'on a pour se définir et en même temps on voit bien que c'est jamais suffisant, que c'est toujours à renouveler. Donc je rebondis encore une fois sur le fait de tourner autour des mêmes mots et de devoir ça tourne pas rond. Parfois on a l'impression de tourner en rond justement, mais en fait le fait de tourner en rond c'est aussi utile et nécessaire parce que on n'épuise jamais le langage en fait. Voilà.
Vous Sophie Marie Laroui, ça vous parle un peu l'importance des mots?
Oui, beaucoup. Bah oui, mais c'était Kippour récemment, et à Kippour on dit c'est la fin d'un cycle, d'une année, et donc c'est on tourne comme ça. Donc il y a un point de début, un point de fin, mais ça ne veut pas dire que c'est fini et qu'on recommence à chaque fois. C'est-à-dire qu'on reprend un autre rond, un autre cercle à côté. Donc oui, parfois ça tourne pas, des fois ça tourne trop rond. Et moi, je suis plutôt dans la partie. Une fois que les auditeurs ont écouté tous les podcasts de mes collègues, ils peuvent venir dans un moment où il peut leur arriver de faire une crise d'angoisse momentanée. Et c'est là que j'interviens pour ce moment où on est bloqué à l'intérieur de sa tête et que, à la manière de Britney Spears, la seule solution qui nous apparaît, c'est de se raser la tête pour sortir de soi. Tu vois.
Pourquoi pas ?
Mais oui, mais non, mais après, moi j'ai les cheveux fins, donc ça serait une tannée, mais bon. Mais je choisis les mots, c'était important pour moi. Après 5 ans d'interview sans fiche, avec un invité et en public, de poser le bon mot, puisque c'est quand même mon travail à la base d'écrire, et de poser le bon mot au bon endroit pour que ça crée un système de souvenirs rassurant, donc d'un univers qu'on connaît et qui n'est pas angoissant comme ce qu'on est potentiellement en train de vivre, à savoir je sais pas quoi, et si je mourais, et si j'étais en train de m'étouffer, et si j'étais en train d'avoir un cancer, et si machin. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important pour moi de dire attendez, pousse. Je vais pas régler tous les problèmes du monde entier, mais là, pendant 15 minutes, on va circonscrire notre pratique à juste genre retourner dans un endroit pour se dire ah oui, c'est vrai qu'il y a des Tic Tac Sprite aux caisses à l'endroit des chewing gums. Ça, on le sait, c'est bien. On le sait pas, c'est pas grave. Mais le fait de se concentrer là-dessus, on se concentre pas sur et si je me jetais par la fenêtre à ce moment-là, quoi.
Oui, et puis en plus, quand même, ces pensées de se jeter par la fenêtre sont quand même dites aussi.
Bien sûr, évidemment, oui.
Parce que sous couvert de tous ces blagues de tic-tac et tout, tu dis quand même les mots qui font peur aussi.
Bien, c'est pour ça que je trouve ça super qu'il y ait plein de podcasts contemporains qui parlent de santé mentale et qui n'en parlent pas avec des tabous, quoi, parce qu'on sait ce que c'est. Enfin, si on est là, c'est qu'on sait ce que c'est que de se dire « ouais, ou alors ». On a compris et on arrête parce qu'on a. C'est pas qu'on n'a pas compris, c'est qu'on n'a pas envie de jouer à la vie. Donc du coup, je trouve que c'est pas, enfin, je le montre pas, mais je suis hyper émue en fait de voir que on peut en parler de cette manière et de se dire OK, soit c'est une mauvaise passe, soit c'est un état, mais cet état, il peut être mâché, compris et accueilli et pas juste paniquant pour tout le monde. Vous voyez ce que je sais pas si je ça fait sens. OK, cool, super.
Si. du coup, toi, Camille, comme je le disais, les définitions et tout sont extrêmement importantes. Qu'est-ce que ça te parle aussi c'est...
Au-delà des définitions, moi, je pense que ce qui nous intéressait, c'était d'avoir accès aux mots des autres et aux réalités des autres très concrètes. Ça veut dire que ce qu'on voulait surtout pas faire, c'était un podcast très théorique sur des soucis. Des gens, même si c'est hyper important, ça existe déjà, ça a été extrêmement bien fait de plein de formes. Nous, on voulait vraiment être dans racontez-nous vos problèmes concrets et on va essayer de voir ce qu'on peut en faire. Et donc, ça passe par des témoignages qu'on reçoit en amont, qu'on récolte en amont. D'ailleurs, petite annonce, la majorité des personnes pour l'instant qui nous envoient des témoignages sont des femmes. Donc, s'il y a d'autres personnes que des femmes qui peuvent nous envoyer des témoignages, ça serait vraiment chouette. Une fois qu'on a récolté ces témoignages, on construit l'épisode autour de ça. Donc, on se base sur les mots des gens, pour le coup, sur les réalités des gens. Ça ne veut pas dire qu'on va diagnostiquer des personnes en live, évidemment que non. Ça veut plutôt dire qu'on va repartir de ça, repartir de choses très concrètes, très réelles, pour travailler, pour réfléchir. Et c'est aussi pour ça que ce podcast, il est enregistré en public, d'ailleurs à la Gaîté Lyrique, juste à côté, là. C'est pour avoir un accès aussi à des questions, à des conversations, et même à passer pour le coup des mots à la pratique, puisque à un moment dans l'épisode, on a un exercice pratique qui, en fonction des sujets, va être totalement différent. Là, sur la question de la nourriture, on a fait un exercice autour du goût, on a goûté des choses, pendant l'enregistrement, justement pour ce truc de comment est-ce qu'on fait pour passer des mots à quelque chose de très, très encore plus concret, encore plus réel, à ramener chez soi, et que les auditeurs peuvent aussi tester chez eux, chez elles.
Oui, justement, c'était un peu ce dont je voulais qu'on parle dans cette dernière partie. C'était l'importance de l'action que vous impulsez toutes de façon différente. Effectivement, dans Encore Heureux, c'est très concret, quoi. Il y a un exercice, le public, on l'entend tout du long. Il y a un échange avec lui qui fait partie également du podcast. Leurs questions, on les entend, les témoignages récoltés. Et est-ce que après aussi, il me semble que tu me disais qu'il y avait... vu que ça a été enregistré en public... vous pouvez échanger aussi entre vous. Est-ce que tu as eu des retours en direct du public après cette première séance d'enregistrement ?
Eh ben oui. Alors il y a un temps de questions à la fin de l'enregistrement, et ensuite, comme on est là, on sort de l'auditorium, on est dans le hall, et puis on peut encore parler. Comme c'est des spécialistes qui viennent, que moi j'invite des spécialistes, on a encore un petit temps pour s'échanger des solutions, et évidemment sur les réseaux sociaux aussi après. L'idée c'est vraiment d'essayer de. Je souffre beaucoup de quand on est seulement dans l'intellectuel, très très théorique, très. Parfois on a un peu de mal à aller se situer très concrètement du côté des solutions. Donc l'idée c'est de d'être le plus possible dans le concret. Ok, maintenant on fait quoi ? J'ai ce problème, on fait quoi ?
Claire Selma. Tout au long en fait de ton podcast, il y a toujours un moment où d'une façon ou d'une autre, soit à travers des paroles d'experts, soit à travers d'autres témoignages, soit à travers ta propre narration, tu donnes des noms d'associations, des outils concrets, des références de bouquins. Et j'ai l'impression effectivement que ça fait partie un peu de la jeunesse de ton podcast aussi, que toujours tu as en arrière-pensée cette idée de collectif et d'action. Tu m'avais notamment parlé d'un des épisodes où il est question de tous ces espaces collectifs qui existent pour pouvoir agir et lutter contre les violences qui peuvent être faites au travail ou dans l'espace public vis-à-vis de la souffrance psychique. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, ça me parle beaucoup parce que vous dites également. L'idée du podcast, c'était surtout pas de juste poser le constat et de se dire super, on fait quoi maintenant, quoi. L'idée, c'était vraiment pas de plomber en assénant des chiffres qui sont. Enfin, si on est tout cela, c'est qu'on le sait. La santé mentale en France, c'est quand même un peu la cata. Et du coup, une fois qu'on a posé le constat, une fois qu'on a entendu des témoignages de personnes qui nous expliquent que ça va pas, pourquoi ça va pas, mon idée, c'était vraiment deux choses. Déjà, on trouve du beau. Ça s'appelle « Quelques raisons de ne pas disparaître », parce qu'à chaque fois, je pose la question à la personne interviewée, donnez-moi une raison de ne pas disparaître. C'est bah, exactement comme tu le disais, Sophie-Marie. En fait, toutes les personnes qui sont interviewées dans le podcast et moi-même, on a connu ce passage-là. On a connu ce passage à se dire, en fait, là, je peux plus. Et toutes et tous, on a eu des petits trucs. Souvent, c'est des petits trucs, mais qui nous ont permis de nous raccrocher un petit peu et de dire, allez, on continue et on verra demain et on verra demain et on verra demain. Et donc ça, c'est le premier truc. Le beau, pour moi, ça a été un des points... Ça paraît pas un outil comme ça, mais en fait, pour moi, ça en est un. Et la deuxième chose, oui, en effet, ça a été de dire... quand on est en dépression, on se sent hyper seul. C'est un truc hyper individuel. C'est d'ailleurs parfois des moments un peu égocentriques où on ramène tout à sa souffrance. En réalité, c'est un problème collectif, que ce soit dans les causes, mais dans aussi les moyens de s'en sortir. Et en effet, il y a deux épisodes où on en parle. Il y a un épisode qui s'appelle « Aller mieux » et où là, du coup, je vais interviewer des collectifs qui se sont organisés pour la santé mentale. Et en fait, ça, on ne le sait pas, mais en fait, ça existe. Il y a des collectifs d'entraide qui se montent un peu partout et qui arrivent... En fait, le constat, c'est quoi ? C'est quand tu vas mal, en fait, tu ne peux pas aller voir un psy parce qu'en fait, tu es au fond du... Tu es vraiment au bout du rouleau, là, tu es dans ton lit. Tu as besoin de quelqu'un pour faire ta vaisselle. Et en fait, bah, ces collectifs-là, ils se montent pour ça. Ils se montent pour dire, bah, OK, bah, viens, on va faire une balade. Viens, je viens chez toi, je fais ta vaisselle. Viens dans... ma boulangerie, tu peux rester là dans la boulangerie toute la journée, mais au moins tu te fous pas en l'air puisque t'es dans la boulangerie. Donc ça, c'est dans l'épisode Aller mieux. Et il y a ensuite l'épisode que j'appelle très modestement CGT, qui en gros parle du travail et qui parle des collectifs de travail et de l'importance des collectifs de travail et de l'importance de la solidarité entre travailleurs et travailleuses. Parce qu'on le sait, une des sources principales de la dépression, c'est la précarité. Et dans précarité, c'est pas que le salaire, c'est aussi les variations de salaire, le fait de pas savoir quand est-ce qu'on va être payé, etc. Et du coup, bah, y a une réponse très concrète qui est l'entraide et aller voir son collègue, savoir s'il va bien, s'il va pas bien, monter au créneau auprès de la direction. Et dans cet épisode, il y a une coach qui s'appelle Marie Da Silva qui a fait beaucoup pour parler des discriminations au travail et des discriminations raciales au travail. Et elle repose très très bien ces enjeux à dire en fait... Ce qui emmène les personnes au fond, c'est l'isolement et l'absence de soutien de la part de leurs collègues. Donc c'est pour ça, en effet, il y a des outils qui, je l'espère, sont accessibles. L'idée, c'était pas de dire « Ah, il faudrait le salaire universel, super, en fait, on va pas l'avoir demain », mais plutôt, en effet, des choses plutôt pratico-pratiques qu'on peut se représenter et on a tous été dans une situation un petit peu similaire, quoi. Voilà.
Oui, et aussi, juste pour... c'était quelque chose d'important que tu m'avais dit, et je pense que c'est bien d'en parler. Tu prends aussi le temps de parler, de donner des outils de comment accueillir la parole de quelqu'un qui souffre. Parce que c'est vrai que la parole, déjà, bah, quand on souffre soi-même, c'est bien de la libérer, etc. Mais ça s'appelle aussi libération de l'écoute. Et ça, je trouve que c'est hyper important aussi comme travail. Voilà. Emmanuel Laurent, vous me disiez aussi un peu, quand on discutait de ce thème qui s'appelle la libération de la parole et de l'écoute sur la santé mentale, vous me disiez, oui, la libération de la parole, d'accord, mais en fait, il faut une libération aussi des moyens, de l'action. Est-ce que vous avez déjà, par rapport à votre podcast, est-ce que vous avez l'impression, parce que... En tout cas, il y a quand même un gros rôle de vulgarisation, de rendre des savoirs accessibles. Est-ce que vous avez eu des retours et l'impression que votre podcast peut aider certaines personnes à avancer par rapport à leur santé mentale ? En tout cas, des questions qu'ils se posent. Et est-ce que vous avez l'impression que vous pouvez participer à donner des clés vers l'action pour aller mieux ?
J'en sais rien si ça les aide. Honnêtement, peut-être, j'espère, en plus de les divertir ou d'apprendre quelque chose. Ce qu'il y a, c'est qu'en effet, surtout à l'époque où je faisais la chaîne YouTube, j'avais énormément de retours et j'avais beaucoup moins de demandes d'anticerne que de noms de psy. Donc, voilà, bizarrement, mais les gens se fichaient de mon maquillage. Ils préféraient savoir qui allait consulter. Donc, j'ai effectivement orienté énormément de monde pendant ces années-là vers des psys. Donc j'ai rempli peut-être les cabinets de mes amis un peu à l'époque. Et puis, bon, maintenant que je reçois, il se trouve que je reçois aussi des demandes directes et je reçois évidemment les personnes. En fait, c'est très bien de faire beaucoup de contenu sur tout ça. Je pense que, bah, d'ailleurs, j'y participe, donc je ne vais pas dire que c'est mal. Mais il y a quelque chose quand même qui reste. En fait, c'est comme s'il y avait... on bute quand même contre quelque chose et je pense qu'à un moment donné il y a quand même un moyen d'aller mieux, enfin je sais pas si c'est le seul, non c'est pas le seul, vraiment pas, mais aller voir un psy ça peut être vraiment bien quand même pour beaucoup de personnes. C'est, je pense qu'il y a beaucoup de solutions concrètes. Je pense que ce que tu disais sur tous les bricolages, les solutions, aller faire la vaisselle, je trouve ça mais fort. Enfin, ça pour moi, c'est presque de la psychothérapie d'ailleurs. Ça pourrait ressembler à de la psychothérapie institutionnelle.
Tu donnes une nouvelle idée de podcast à Sophie Marie. Une méditation en faisant la vaisselle.
Chez des autres qui ont besoin qu'on vienne faire la vaisselle chez eux, où c'est en fait là, on a presque une communauté de soignants soignés dans la cité, ce qui est en fait des choses qui ont été théorisées aussi, mais donc qui sont de l'ordre de la psychothérapie. Et oui, c'est important. Voilà. Et je pense que ça se transmet dans le concret, donc soit par des actions comme ça, très concrètes, soit par l'expérience peut-être plus intellectualisante encore qu'elle fait intervenir le corps, qui est donc l'expérience d'aller voir un psy toutes les semaines, voire deux fois par semaine, et pendant des années parfois. Moi, j'y ai passé 20 ans quand même. Donc ça a changé des choses, véritablement.
Sophie Marie, toi, tout au long des épisodes, tu t'adresses directement à l'auditeur. Et du coup, tu crées un lien quand même hyper fort avec ton auditeur. Est-ce que c'était important pour toi, ce lien-là ?
Bah, c'est-à-dire que c'est une chance que j'ai vraiment. D'ailleurs, je sais pas si vous étiez auditoriste de À bientôt te revoir, vous qui êtes ici. Merci beaucoup. J'ai la chance d'avoir une communauté qui est extraordinaire, c'est-à-dire que ils sont intelligents, .t.me.s, ils sont brillants, ils bronchent, parce que c'est comme ça qu'ils s'appelaient les broncheurs et les broncheuses, mais c'est vrai, c'est-à-dire que quand ils sont pas d'accord, ils le disent, donc je me dois de faire perdurer ce lien. Enfin, si j'essaye de faire penser que la vie vaut le coup et qu'il faut aller voir jusqu'à demain matin, c'est un peu la moindre des choses dans mon travail que de m'adresser directement aux gens qui m'écoutent et qui prennent le temps de le faire, parce qu'ils pourraient vraiment faire autre chose à la place de faire ça, puisqu'on n'est pas indispensable. Donc c'est vraiment sympa. Donc oui, c'est important le lien. D'ailleurs, j'aimerais, enfin, je sais pas si je peux faire une mini digression.
Vas-y.
Je serais malvenue de pas le faire. Pour moi, ces actes du quotidien qui sont de l'ordre de la psychothérapie, j'aimerais les faire vivre pour de vrai dans mon podcast celui-ci, puisque avec À bientôt te revoir, on remplissait la Scala une fois par mois. Il y avait 1000 personnes qui venaient une fois par mois, deux fois 500 pour voir des invités et se rencontrer. Et je trouve que c'est déjà un acte fou que de sortir de chez soi. Quand on est bon, voilà, je sais que les gens qui m'écoutent, ils sont sensibles, donc c'est pas forcément. Même moi, j'ai envie de rester chez moi. Enfin, à la place d'aller enregistrer les À bientôt te revoir une fois sur deux, je me disais, ou alors j'y vais pas. Enfin, il se passe quoi si j'y vais pas ? Rien, je vais me faire engueuler. Mais et donc, enfin, quand t'as envie de crever, te faire engueuler, c'est vraiment le dernier de tes soucis, quoi. Bref, tout ça pour finir sur une note positive sur mon intervention, c'est que là, j'aimerais retrouver ce lien du face à face en organisant de l'événementiel avec à la recherche du tour la catalane. Je vous invite à vous y abonner si ce n'est pas encore le cas. Sinon, j'arrête de parler. Hein ? Parce que j'aimerais bien travailler sur le lien de la nourriture, parce que pour moi, c'est le premier art que de faire à manger à quelqu'un. Enfin, le beau, il est aussi dans le fait de manger. Et donc, j'aimerais bien. Je cherche en ce moment des solutions et des partenaires pour organiser des événements où tout simplement, ben, on mange des trucs. Parce que je pense que quand tu as envie de manger un truc, quand ça ne va pas fort, ben, c'est que déjà, tu te dis « Ah !» Il y a peut-être une solution quelque part qui traîne, quoi.
Voilà. Ça donne envie. Eh ben, merci à toutes. Alors là, il nous reste 15 minutes, même un peu plus, pour échanger avec vous qui nous écoutez, qui êtes là. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. Si vous n'avez pas de questions, moi,
est-ce qu'on a un micro pour les personnes qui veulent intervenir ?
Et je pense que c'est mon micro. Ouais. Moi, je peux me déplacer vers vous. Donc, est-ce que dans le public, il y a des personnes qui ont des questions? Oui.
Déjà, bonjour. Juste, j'ai remarqué que vous parlez beaucoup de problèmes mentaux comme l'anxiété ou la dépression. Mais est-ce que vous faites aussi des choses pour déstigmatiser les cas, par exemple, de psychose sévère ou certains troubles du spectre autistique?
Je ne sais pas qui a envie de répondre.
Moi, je vous laisse répondre parce que je ne suis pas assez calée pour répondre à cette question.
Moi, je vais répondre. Mais c'est intéressant comme question parce qu'effectivement, cet été, on a fait un hors-série sur cette onde par onde qui ne traite absolument pas des psychoses. Voilà. Et non, mais je vais continuer. C'est-à-dire qu'on a fait un hors-série qui traite des névroses, donc évidemment toujours sous théorie psychanalytique. Et attention, il y a plein d'autres façons de nommer tout ça, mais voilà. Et la rédaction voulait qu'on fasse des épisodes sur la psychose. Et j'ai refusé, j'ai pas refusé pour toujours forcément, mais j'ai refusé parce qu'il n'y avait pas assez de temps selon moi pour préparer ça correctement. Mais ce serait en effet quelque chose que moi j'aimerais faire peut-être pour l'été prochain, pour un prochain hors-série, mais quand même mieux préparé en amont parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi et ça se prépare. Voilà. Je suis désolée de ne pas du coup développer plus que ça.
Ouais, moi, je peux peut-être ajouter quelque chose. Pour encore heureux, en tout cas, nous, on le garde en tête comme par exemple un sujet en particulier, mais plutôt en fil rouge, comme on essaye d'avoir d'avoir en tête plein de situations et de réels différents. On essaye de vous garder en tête. Par exemple, vous donniez l'exemple de l'autisme. Eh ben, le pilote qu'on a travaillé, on a travaillé sur un pilote sur la fatigue et notamment la fatigue due au bruit. Ben, on sait que plein de personnes qui sont sur le spectre autistique ont un rapport assez complexe au bruit de tous les jours dans la rue. Enfin voilà, au bruit quoi. Eh ben, c'est évidemment un sujet qu'on a abordé. Donc ça sera jamais, sans doute pas, vu comment on l'a pensé, comme un thème, par exemple, on ne va pas forcément faire un épisode sur l'autisme, mais par contre, clairement, c'est un sujet qu'on va aborder de plein de façons, à plein de moments. Voilà.
J'aimerais bien ajouter une dernière chose là-dessus, parce qu'en effet, le thème de cette table ronde, c'est libérer la parole. Et je sais qu'en préparation, je l'avais évoqué, c'est-à-dire qu'on libère la parole pour qui? C'est-à-dire, est-ce qu'on ne libère pas aussi la parole pour des personnes qui, au fond, beaucoup de monde souffre, beaucoup de monde a des soucis, mais on libère la parole pour qui, si ce n'est aussi pour des personnes en fait normales et qui s'inventent un peu des petits problèmes, là où il y a quand même des personnes aussi qui souffrent beaucoup ou qui sont dans des positions par rapport au monde qui sont radicalement différentes de d'autres personnes. Et est-ce que, oui, ce serait, je pense, le vrai défi, c'est de pouvoir aussi aborder ces questions-là. Il y a quand même l'émission Le Papotin qui quand même tente de le faire, et je trouve, je ne sais pas si vous connaissez Le Papotin, qui vous ne connaissez pas? Bon, peut-être que ça peut être intéressant de regarder cette émission qui passe sur France Télé et qui là fait intervenir des personnes qui sont vraiment confrontées à ces situations-là.
J'ajoute deux petites choses. La première, c'est que Alix est à un podcast qui s'appelle Les Garde-fous et où du coup, pour le coup, on parle de toutes les formes de folie et pas que d'une spécifiquement. Et la deuxième, c'est que, en effet, moi, le podcast est sur la dépression. J'ai essayé au maximum de montrer les liens entre la dépression et d'autres maladies. On pense souvent à la bipolarité, puisque dans les troubles bipolaires, on a des périodes souvent de dépression. Mais aussi la schizophrénie, qui est une maladie qui est extrêmement stigmatisée, alors qu'elle a plein de liens avec la dépression, et que assez souvent, en fait, les deux diagnostics se recoupent. C'est surtout une question de démographie et de qui est diagnostiqué. Mais voilà, pour répondre très brièvement, en effet, moi, l'angle, c'est être en situation de dépression, mais souvent, c'est une porte d'entrée vers d'autres troubles qui, là, sont extrêmement divers. Et totalement d'accord sur ce que tu disais sur libérer la parole, mais pour qui ? On entend assez peu, typiquement je reprends l'exemple des personnes schizophrènes, parler de santé mentale, alors qu'elles sont concernées.
Ouais.
Oui, et effectivement, les garde-fous, on en parle. Et il y a aussi un podcast qui s'appelle Les mots bleus, qui donne la parole à ces personnes-là. Et oui, il y a une autre question, alors.
Merci, c'est un petit peu pour rebondir sur cette question-là. Je ne sais pas si j'ai une question parfaitement articulée, mais c'est bon, une réaction. En vous écoutant, Claire Selma, j'ai été frappée par ce processus de, déjà de diagnostic et puis de s'approprier ça à travers les mots. Et j'ai justement été frappée par ça, c'est empouvoirant de faire ça, alors qu'il y a quelqu'un qui est très proche à moi et cette personne-là n'est pas à même de faire ce travail-là. Et justement, je me demande si c'est cette gouffre entre la névrose et la psychose et que la psychose demande tellement, je sais pas, tellement plus de travail pour... Je sais pas.
En fait, bon, je pense qu'il faut pas forcément dire que les névrosés seraient capables de faire ce travail et les personnes psychotiques. C'est parce que c'est effectivement bien plus complexe que ça. Il y a des personnes des deux côtés du spectre qui ne peuvent pas faire ce travail ou qui ne veulent pas pour certains. Mais vous avez raison, par contre, peu importe qui on est, peu importe le diagnostic, parce qu'on va aussi peut-être s'émanciper de ces questions-là, c'est qu'est-ce qu'on fait avec des personnes qui souffrent énormément et qui ont des grandes difficultés à entamer ce travail. Et effectivement, c'est là que se posent les questions de moyens et les questions de la psychiatrie en France, alors que bon, c'est qu'aujourd'hui, c'est quand même... tous les services de psychiatrie ne sont pas concernés. Heureusement, il y en a encore certains qui fonctionnent à peu près. Mais
j'espère bien que ce genre de travail, enfin, ces récits et ces podcasts pourront peut-être entamer ce travail pour ceux qui n'y arrivent pas. Je ne sais pas. Voilà, merci.
Ben, peut-être pour te répondre, c'est vrai que là, je donne l'impression d'avoir fait ce travail genre, hyper facilement et pas du tout. Moi, ça m'a pris beaucoup, beaucoup de temps. J'ai bénéficié de l'expertise de nombreuses personnes et notamment de tout le courant dit antipsychiatrie qui questionne, en fait, justement, ces labels, pourquoi ces labels existent, à quoi servent-ils. Et moi, ça m'a permis de justement me réapproprier ces labels-là et de mieux les comprendre. Et c'est vrai que, bon, moi, je ne suis pas du tout calée en psychanalyse, donc névrose-psychose, je ne saurais pas te dire. Mais, par exemple, les personnes dépressives prennent des antipsychotiques. C'est hyper courant. Enfin, donc, c'est pour dire qu'en fait, c'est plus des histoires de continuum. Et c'est pour ça que moi, je préfère qu'on parle des symptômes, de qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui t'arrive. Tu as des hallucinations ou tu n'as pas des hallucinations. Tu as une humeur très faible ou tu n'as pas une humeur très faible. Et peut-être pour ton ami, c'est pas des chemins qui sont faciles à faire seul, en fait. Donc peut-être que, voilà, c'est peut-être ça. Moi, je dirais la clé, c'est de trouver des collectifs, en fait, de trouver des personnes qui sont passées par là, qui peuvent avoir des expériences différentes, mais qui seront toujours enrichissantes et qui permettront de doucement naviguer.
Et je sais pas si cette personne est en région parisienne, mais il y a un espace qui s'appelle la Maison Perchée, où c'est des personnes qui justement ont des souffrances psychiques et qui s'entraident là-dedans. Je crois qu'il y a un documentaire qui est sorti sur eux à la télévision. Je n'ai pas plus de précision, mais voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ?
Bonjour à toutes, merci pour ce débat. On vit dans une société très capitaliste, néolibérale, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, Camille Test. Et j'ai l'impression que c'est une société où on nous pousse toujours à la performance. Et j'ai l'impression que de plus en plus, il y a une injonction très forte au bien-être. Et moi, j'ai peur parfois que cette injonction, parfois, fasse l'effet inverse, qu'elle nous pousse plus au mal-être, parce qu'on est submergé par des tas d'applications sur la méditation, sur le yoga, etc. Et... parfois, si on ne suit pas, par exemple, un cours, ou si on ne suit pas, si un matin on se réveille, on se dit « Oh là là, j'ai oublié de faire mon exercice de cohérence cardiaque » ou « J'ai oublié de faire mon yoga », on va se sentir peut-être encore plus mal. Et ouais, j'avais ce sentiment-là et je voulais savoir si cette injonction au bien-être, finalement, ne nous poussait pas finalement parfois au mal-être et comment on pouvait finalement sortir de ça et ouais, tout simplement ouais, faire en sorte que cette injonction bien-être ne fasse pas l'effet inverse.
Je crois bien qu'on essaye de faire au jour le jour. Je comprends ce que tu veux dire sur l'injonction. Elle est aussi beaucoup liée, à mon sens, aux réseaux sociaux, au fait qu'on vive ici, là, maintenant, et que je pense que c'est pas la même situation dans le fin fond de Lyon, tu vois, derrière Montreux. Bon, ils n'ont pas le même FOMO que nous en ce samedi après-midi où on a réfléchi comment s'habiller avant de venir à la Gaîté Lyrique. Non mais c'est vrai, il y a un truc où notre position située, c'est que là on est là, donc on sait pourquoi on est là, et même si on rejette, on y est quand même, donc on est bien conscient. Pour moi, une des réponses, c'est de se dire je suis conscient de ce que je suis et de ma position située là aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que c'est gravé dans le marbre à tout jamais, et sans vouloir vendre ma soupe, dans la recherche du temps la catalane, je dis aussi, franchement, si comme moi vous avez envie de gifler des gens dans la rue parce qu'ils se sont permis de ne pas s'arrêter au centimètre près avec leur SUV de merde au passage piéton, c'est OK. Et je pense que le fait d'accepter notre condition de FOMO, d'avoir envie de frapper des gens en visage parfois, ça vient avec une partie de la solution, d'accepter qu'on n'est pas aussi cool que ce qu'on s'imaginait être à l'âge où on est, tu vois. Moi, quand j'avais 15 ans, je ne me disais pas que je serais comme ça à 40, par exemple. Je pensais que j'aurais une agence, des clés bien organisées et que jamais de la vie, je n'aurais pas de batterie. Bon, il s'avère que... Voilà, et que j'aurais une famille fonctionnelle. Bon, non. Et le fait de faire la paix avec ses projections, c'est tout le principe du moment présent, quoi, de se dire, là, c'est comme ça, et c'est la merde, voilà. J'ai envie de te dire que t'es vraiment un enfoiré, c'est tout, ça passera peut-être, je suis désolée. Enfin, tu vois, être un peu sincère, quoi, quant à ce qu'on ressent, et pas dire, ça va, c'est franchement top, ouais, j'ai plein de projets, là. Non, c'est faux, je me fais chier, j'ai mal au ventre, enfin, tu vois, il y a des fois où c'est pas facile. Je pense que, je sais pas comment tu ressens, on va prendre un cas concret, je vais te mettre au pied du mur. Pour préparer cette intervention, j'imagine que tu as flippé des fois, ou que tu t'es dit, je ne sais pas, je suis pas sûre de ce que je vais dire, je sais pas, voilà. Alors qu'au final, tu l'as fait, tu as dépassé une petite, pas une phobie, mais un moment de stress, et là, on arrive à l'issue de l'intervention, et franchement, c'était chambé, c'était hyper bien fait, et je te remercie d'avoir travaillé comme ça, et je pense qu'en se disant, viens, on voit l'heure d'après, et c'est pas grave si on n'est pas allé au yoga. Ça fait déjà. Puis même si on va, des fois on va au yoga, puis il y a des gens et puis des yep, franchement c'est trop gênant. Même nous, hein. Enfin. Bon, c'est pas grave quoi. Et puis des fois je me dis, franchement le yoga c'est 25€ la séance, c'est trop cher. Enfin, tu vois, il y a un truc où, non, ça me pose aucun problème d'aller chercher un fish et une frite au McDo pour le même prix quoi. Donc, et c'est bon, c'est ok. Des fois on est naze et des fois on est chambé. Et là en l'occurrence c'était chambé, merci beaucoup.
Merci.
Moi, j'ose pas rebondir après cette magnifique conclusion. Non, au contraire. Simplement pour rebondir sur ce que vous disiez un instant, parce que c'est vrai que moi, c'est mon sujet de prédilection. J'ai écrit un livre entier pour comment défoncer le bien-être, pour reconstruire le bien-être après. Parce que oui, cette injonction au bien-être, à la meilleure version de soi-même, on la connaît par cœur et elle est clairement ancrée dans ce système néolibéral qui veut que on soit, en gros, on porte sur notre dos l'intégralité de notre bonheur, comme si en fait c'était notre responsabilité. Ça l'est un peu, mais surtout aussi, c'est beaucoup le système aussi autour de nous. Et donc je pense que ça, une façon de faire, c'est de nommer et de régulièrement. Y compris dans des sujets de santé mentale ou individuelle, de renommer ce système, de rappeler, comme vous l'avez fait, oui, on est dans un impératif à aller bien, à faire du sport, à faire attention à sa nutrition, et se rappeler effectivement qu'il y a une solution dans le fait de se lâcher et de se foutre la paix. Et ce qu'on a fait, par exemple, dans cet épisode sur la nourriture, qui est le premier qui est sorti, c'est ça. C'est dire, est-ce que finalement la solution à nos problèmes de bouffe et à nos problèmes d'alimentation et à notre stress de bien manger nos protéines le matin, nos fruits avant ou après le repas, et puis finalement le sucre, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut complètement arrêter et tout, c'est d'arrêter, de prendre conscience que toute cette obsession continue autour de la nourriture, c'est aussi un excellent moyen de nous vendre des trucs évidemment, et ça nourrit une espèce de de trucs qu'on a, nous, humains, actuellement, dans ce système, d'avoir besoin de nous surcontrôler, d'avoir des applis où on regarde voilà, tout ce qu'on fait, à quelle heure, on fait des listes, on fait des to-do listes, on remplit... Et que ça nourrit, je ne sais pas si on peut parler de névrose, je ne sais pas si c'est le terme est le bon, mais en tout cas, ça nourrit une partie de nous... qui elle-même nourrit un système capitaliste, qui elle-même nourrit cette partie de nous, voilà. Donc lâcher et prendre le problème complètement à l'inverse, et lâcher et se foutre la paix, je pense que c'est, voilà, c'est, ça peut être une solution de santé mentale pour le coup.
Est-ce qu'il reste 2 minutes, donc une petite question peut-être, si quelqu'un... Oui.
Merci. Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai une petite question. Est-ce que vous avez des choses à nous dire sur pourquoi le podcast en particulier, puisque je vois que vous écrivez, que vous faites d'autres choses. Enfin, pas pourquoi le podcast, mais qu'est-ce que ça fait de mettre des choses dans les oreilles des gens, qu'est-ce que vous aimez bien, voilà.
C'est une super question. Je commence. Moi, j'aime bien le podcast parce que je peux pas faire une chose à la fois. Donc, j'aime bien pouvoir écouter des trucs et en même temps, je sais pas... écosser des haricots, qu'importe, etc. Donc, c'est pour ça que j'aime bien l'audio.
Moi, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Je trouve que le podcast, il y a quelque chose d'à la fois intime et facile. C'est-à-dire qu'en effet, tu rentres dans le quotidien des gens de manière beaucoup plus douce que l'image. Et beaucoup, en tout cas, moi, je trouve plus facile que l'écrit. Je suis plus... voilà, je suis plus quelqu'un qui aime l'oralité. Et après, qu'est-ce que ça fait ? Bah, moi, c'est simple. Le jour de la sortie du premier épisode, j'ai fait une crise d'angoisse parce que j'étais paniquée à l'idée que d'autres personnes entendent ça. Je me suis dit, oh mon Dieu, mais si ma famille tombe dessus ? Enfin bref. Évidemment, je leur ai envoyé après hein, et ils sont très fiers. Mais donc, ouais, ça fait hyper peur. Et en même temps, moi, je trouve ça très beau parce qu'il y a un niveau d'intimité que je trouve qu'on n'a pas dans les autres médias. Et surtout à un niveau d'anonymat un peu bizarre, où à la fois tu connais très bien la personne, en même temps tu ne sais pas à quoi elle ressemble. Et je pense que pour les témoignages, je ne sais pas si vous avez eu ça pour les garde-fous, mais moi je sais que ça rassurait beaucoup les gens de leur dire en fait, on ne vous verra pas. On ne vous verra pas, il n'y aura que votre voix. Et en plus, vous pourrez couper tout ce que vous voulez, parce que moi quand je fais des entretiens, c'est, les personnes coupent tout ce qu'elles veulent et il n'y a aucun souci là-dessus. Et du coup, voilà, moi, c'est pour ça que j'aime bien ce format et notamment pour ce projet.
Et moi, je rajouterais que, en tant que consommatrice de podcasts, moi, je crois que je me suis beaucoup politisée et éduquée sur plein de sujets grâce au podcast. Je suis devenue moins ignorante sur certains sujets grâce au podcast. Et donc, il y a une sorte d'attachement très, très profond. Enfin, je crois que les podcasts nous ont fait un bien fou en tant que société, même si, tu le disais un peu tout à l'heure, c'est aussi encore pas forcément l'intégralité des Français qui écoutent des podcasts et clairement pas tous les mêmes, voilà. Mais voilà, je crois que c'est un format qui peut faire passer des choses extrêmement nuancés, des propos très nuancés, des désaccords dans un contexte où on se hurle dessus en permanence sur les réseaux sociaux parce qu'on n'est pas d'accord sur un point virgule, ben, je crois que c'est un espace de nuance qui est chouette.
Et moi, pour moi, c'est un média comme un autre. En fait, je suis passée par l'écrit, par la vidéo, par le podcast. D'un point de vue très personnel et très égoïste, moi, ça me soulage qu'on ne me voit plus en ligne. Et... voilà, mais sinon, j'ai un attachement à l'écrit, à la vidéo et à l'écoute.
Eh bien, je crois qu'on a fini. Il est l'heure. Merci à tous et à toutes d'être venus. Merci à vous.
Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous toutes.